les cheveux qui tombent comme le soir, et de la musique en bas des reins, ce jazz qui jazz dans le noir, et ce mal qui nous fait du bien, c'est extra. Ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie, et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui prie, c'est extra. Des bas qui tiennent haut perché comme les cordes d'un violon, et cette chair qui vient troubler l'archet qui coule ma chanson, c'est extra. Et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. Oh, alors c'est extra. Une robe de cuir comme un oubli qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra. Les mots du blues qui s'en balancent, c'est en pluie qui ne veut plus rien dire, et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra.
Il y a des constantes dans son écriture, dans le sens qu'il avait un maniement de la langue qui était absolument extraordinaire, en particulier une étendue de vocabulaire fantastique. Bon, à l'intérieur de cette constante, il y a une évolution certaine, dans ce sens qu'il y a un approfondissement des thèmes, je crois, surtout, et puis également une sorte de d'intensité dans la réflexion qui se manifeste par les textes théoriques dont je parlais tout à l'heure. Mais je crois que ce qui est frappant dans le style de Léo Ferré, c'est le talent pour les formules. En particulier, le fait d'inventer comme ça un certain nombre de formules très 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 frappantes, et très souvent à partir de d'autres formules, en particulier, qui avait tout à fait frappé, parce que j'avais pas compris au point de départ le sens de cette expression. Dans deux textes, il utilise l'expression coup de jatte, C-O-U-S, plus loin jatte. Et moi, je n'avais pas réussi à comprendre. Je lui ai demandé qu'est-ce que ça signifie. Alors pour lui, ça semblait évident. Il dit c'est construit sur cul de jatte. Coup de jatte, ce sont des guillotinés qui ont été décapités et qui se retrouvent évidemment par rapport à leur tête de la même manière que le cul de jatte peut se retrouver par rapport à ses jambes. Donc coup de jatte, c'est une expression fantastique. Et puis il y a de nombreux exemples comme ça dans un texte. Il dit que l'horizon se peint d'épices pour rendre compte de cette couleur que prend l'horizon au coucher du soleil. Donc, forger un verre de pain d'épicé sur le mot pain d'épices, c'est extraordinaire. Puis les formules frappantes, en particulier dans sa définition de l'anarchie qui présentait comme l'expression politique du désespoir, ou encore dans un texte qui s'appelle Le printemps des poètes, où pour rendre compte du passage de la jeunesse à la vieillesse, il dit « Depuis que ma jeunesse a décidé d'aller se faire teindre ailleurs ». C'est fantastique comme expression. Et puis on pourrait les multiplier. Il y en a des dizaines, voire des centaines de ce genre. Et je crois que c'est ce bonheur d'expression qui caractérisait Léo Ferré. C'était cette façon de trouver toujours le mot juste, le mot qui frappe.
Vous savez, le miracle, qui est une chose incontrôlable, comme tous les miracles, quoi, c'est le vocabulaire. Alors là, je ne suis pas arrivé à savoir. Je porte, par exemple, puisqu'il s'agit de moi, en moi un stock de vocabulaire, stock de mots, qui viennent précisément au moment où il faut, avec la pensée. Et des mots dont j'ignorais il y a 5 minutes que je les connaissais. Et le mot juste, le mot précis, c'est ça, ce robot merveilleux que nous portons à nous.
Maurice Fraud, vous êtes responsable de la programmation du Printemps de Bourges et vous avez aussi longtemps été très proche de Léo Ferré. En fait, on parle beaucoup de Léo Ferré comme poète, éventuellement, même indépendamment de musicien. Qu'en pensez-vous et, selon vous, qu'en pensait-il, lui, de son statut de poète et de ses textes?
Il avait, vis-à-vis de la poésie, à la fois une approche très, très directe et très facile, et j'ai envie de dire très quotidienne, mais pour lui, ce n'était pas quelque chose de sacré. Il était poète sans le savoir, en fait. Il était poète sans le savoir comme il était musicien sans le savoir, puisqu'il raconte que quand il était tout petit, il dirigeait des orchestres imaginaires et qu'il s'imaginait que tout le monde était capable de créer des mélodies comme il le faisait. Il écrivait très facilement, mais d'une façon tout à fait dissemblable, suivant un peu ce qu'il avait dans la tête. Il engrangeait. Il lui venait une idée, il l'écrivait, et puis 10 ans après, il la ressortait. C'est ainsi que Richard, la chanson Richard, qui commence par « Les gens, il conviendrait de les connaître », etc., ce texte-là, il l'a écrit 7-8 ans avant. Sans savoir, comme ça, sur une idée.
Mais toujours dans l'idée de faire de la musique un jour. C'était pour lui indissociable.
Pour être honnête, je ne suis pas certain qu'en écrivant cette phrase-là, il pensait y mettre de la musique un jour. Mais la preuve aussi, c'est que le jour où il l'a ressorti, c'est pour y mettre de la musique. Je pense vraiment qu'il vous aurait répondu que pour lui, les choses allaient de pair. Il se considérait comme chanteur. Et il fabriquait, comme un artisan, comme un cordonnier fabrique des souliers, lui fabriquait des chansons. Alors, ne voir en lui que le poète ou ne voir en lui que le musicien, c'est pas tout à fait ça, quoi. À signaler d'ailleurs en passant qu'il ne parlait jamais de poésie, lui il disait paroles. C'est assez significatif quand même.
À partir des chiens, pourtant, il y a vraiment eu une énorme modification. Il s'est mis à dire des textes qui, selon lui, même s'il mettait de la musique dessus, apparemment ne se prêtait plus, en tout cas, à une mise en chanson. On était déjà dans une autre catégorie. Est-ce que c'était pas plutôt un moyen de faire passer ses textes auprès du public qu'il avait et dans le cadre d'un spectacle?
Vous savez, c'est très difficile de parler de Léo, parce que je pense qu'il n'avait pas de règles. Il n'en avait qu'une, c'était la sincérité. Mais je pense que, quand même, 68 a marqué pour lui une libération extrême, puisque c'est là qu'il a changé de vie. C'est là que nous sommes partis sur les routes. C'est là qu'il a accepté, sur une idée de Popol d'ailleurs, c'est Popol, parce qu'il avait mis une musique sur le chien. Il a existé une mélodie. Mais c'est une mélodie qu'il n'arrivait pas à retenir, parce que le chien, qui commence par des vers en 8 syllabes, des octosyllabes, dérape très rapidement et devient de la prose. Effectivement, sur la prose, il avait mis de la musique, mais qui était déphrasée, un peu à la Debussy, et qui était difficile à mémoriser. Déjà qu'il y avait des difficultés avec la mémoire, il y avait tellement de choses dans la tronche. Et quand nous répétions cette chanson, il n'arrivait pas, il se gourait tout le temps. Et c'est Popol qui lui a dit, écoute, répète déjà ton texte, et puis moi je vais te soutenir. Donc Léo a dit le texte, et ensuite on s'est aperçu que c'est ça qu'il fallait faire. Parce qu'à ce moment-là, il n'était plus tenu par... Vous savez, la chanson, c'est quelque chose d'extrêmement... C'est un corset, la chanson. Hein, et on ne peut pas faire rentrer de la prose dans un corset, bien entendu. Et il s'est aperçu, à ce moment-là, des possibilités que lui donnait cette méthode. Le fait de dire sur un fond musical le libérait complètement. Il n'était plus tenu par le corset de la rime, de la métrique et tout ce que vous voulez. Hein. Alors pour lui, c'était une libération extrême. Et c'est vrai qu'à partir de là, il a pris l'habitude de se lancer dans des longs textes comme ça. C'était une libération.
À mes oiseaux piaillant debout, chinés sous les becs de la nuit, avec leurs crêpes de coutis et leurs fourreaux fleuris de trous. À mes compains du pain rassis, à mes frangins de l'entreprise, à ceux qui gerçaient leurs chemises, aux givres des pernaux minuit, à l'araignée, la toile au vent, à Biftec, baron du homard, et sa technique du caviar qui ressemblait à du hareng, à Bec d'Azur du pif content qui crachait côté de Sancerre sur les midnights à moitié vert. Chez un bistre de cyclisme, aux spécialistes du chkoumoun, qui se sapaient de courant d'air et qui prenaient pour un steamer la compagnie blonde Entloun, au pané qui, la langue au pas, en plein hiver mangeait des nèfles, à ceux pour qui 2 sous de trèfle, ça valait une cravena.
Une idée qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir quand on voit qu'on essaye de présenter les textes de Léo Ferré indépendamment de sa musique, c'est l'idée que comme auteur, il pourrait être voué à une sorte de plus grande immortalité que comme chanteur.
Alors ça, je peux vous dire que ça ne lui aurait pas plu du tout, parce que si pour le hausser, il faut l'extraire de sa musique... Ça, ça ne lui aurait pas plu du tout, parce qu'il mettait la musique par-dessus tout. Je crois qu'au fond de lui-même, il était marié avec la musique, et que la poésie, puisque c'est le mot que nous avons employé, ça a été pour lui la façon de faire passer sa musique. Il ne pouvait jouer sa musique que dès l'instant où il y avait des paroles, puisqu'il n'était pas, il n'avait pas d'autre moyen de faire jouer sa musique. Les paroles qu'il écrivait, c'était obligé pour faire passer sa musique. Alors que maintenant, on veuille extraire les paroles du contexte musical et de la scène, n'oublions jamais également que Léo, il pensait toujours à la scène. Il y a dans le métier que Léo faisait ce triple aspect des choses. Il y a le côté écriture avec son stylo, avec son piano, et puis ensuite les planches. Et Léo n'a jamais été absent des planches. Il aimait beaucoup se produire. Léo n'avait pas le trac. Il aimait beaucoup se produire. Il était très courageux face à des salles houleuses. Il s'en démerdait très bien. Il aimait les planches. Donc, vouloir faire de ce monsieur maintenant un homme de plume, et pourquoi pas un homme de cabinet, ça me fait rigoler, moi. Léo était un type beaucoup plus simple que ça. Il se vivait pas comme le Victor Hugo des temps modernes. Absolument pas.
On peut penser que beaucoup de gens ont surtout retenu ces textes, ont surtout été frappés par ces textes et par leur contenu. Il y a quand même une contradiction avec la manière dont lui-même se vivait.
Il y a une ambiguïté quand on parle de musicien. Il y a une ambiguïté parce que vous pouvez être musicien de 36 000 façons. Vous pouvez être un simple instrumentiste qui joue la musique des autres, vous pouvez être un mélodiste, vous pouvez être un arrangeur, vous pouvez être un chef d'orchestre, et tout ça, c'est de la musique, mais ça n'a rien à voir. Ce sont des métiers différents. Léo était musicien dans la mesure où il aimait composer de la musique, il aimait jouer de la musique, il aimait chanter, et parce que c'était un fou. On ne parle pas assez du côté folie de Léo. C'était un fondu, ce mec. Hein ? Je veux dire qu'il décollait facile. Et quelle meilleure façon de décoller avec la musique que de diriger sans musicien. Et tout d'un coup, on a la baguette, ou même sans baguette, parce qu'il me fait rigoler quand je le vois avec son petit t-shirt là, en train de diriger les mecs en jaquette. Hein. C'est vachement bien. Mais c'était une folie, c'était un fantasme. Il assouvissait ce fantasme. C'était pas son véritable métier. Et d'ailleurs, il en souffrait. Il souffrait de ce que, étant donné qu'il était chanteur, il ne serait jamais reconnu comme chef d'orchestre. C'était son rêve, c'était sa désirade. Il voulait y aller dans cette île, et il y est allé. Après, on en pensait ce qu'on en pensait, mais si vous saviez ce que ça lui faisait plaisir. Il disait que diriger un orchestre, c'était mieux que de faire l'amour. Alors, ne parlons pas d'écriture. Il n'a jamais dit qu'écrire un long texte en prose, c'était mieux que faire l'amour. Certainement pas. Il était d'accord avec moi, écrire, c'est le bagne. Les lettres, c'est le désêtre, a dit Cocteau. Et il le pensait, Léo. Mais il ne peut pas s'empêcher d'écrire, quand même.
De toute façon, il ne faut pas que je me plaigne. Moi, j'ai la chance. Et je reviens à ce que je vous disais au début, c'est que j'ai de la voix. Et s'il n'y avait pas de voix, je n'écrirais pas de chanson. Et d'avant tout, je suis un chanteur. C'est merveilleux d'avoir la voix, vous savez, pour envoyer ça dans la tête des gens. C'est extraordinaire. Vous voyez, moi, un type qui fait un récital de poésie dans le théâtre, c'est pas vrai, c'est pas possible, ça. Pourquoi ? Parce qu'il manque la musique, c'est tout. La musique, c'est une putain de véhicule. C'est une charrette admirable.
C'était Tire ta langue, la langue à Léo. Une émission d'Olivier Collardel, avec la participation de Louis-Jean Calvet, Robert Orville, Maurice Fraud, des lectures de Catherine Ribeiro et des archivina de 1970 et 1980. Mixage de Gérard Servet, réalisation François Connac.
Léo le Magnifique. De l'intérieur de ton temple, ouvert à toutes les scènes, de ta superbe stature drapée de noir, de ton visage auréolé de mousseline blanche, tu as vécu debout, humain, sauvage, orageux, violent parfois, sachant bien mal camoufler la tendresse qui habitait ton âme souveraine. Tu violentais la bêtise au nom de l'intelligence et de la beauté du verbe, par amour de la pensée universelle qui nous rassemblerait tous sur le parvis de nos incertitudes. Tu viens de quitter Marie et tes enfants dans la souffrance de ton corps, mais j'en suis presque certaine, dans le calme d'une paix méritée. Au revoir, Léo Ferré.
Vous êtes à l'écoute de France Culture. Dans une minute, il sera 21h30.